9.
Saubers, alias Hawkins, est venu au magasin pour la première fois il y a 2 semaines, en se cachant derrière une ridicule moustache d'adolescent qui n'avait pas encore eu le temps de pousser beaucoup. Il portait des lunettes à monture de corne noire, comme celles que Drew, alors Andy, arborait à l'époque où Jimmy Carter était président. En règle générale, les adolescents franchissaient peu la porte de son magasin, ce qui allait parfaitement à Drew. Il avait peut-être toujours un faible pour certains jeunes hommes, William le serveur en était un exemple, mais les ados avaient tendance à ne pas être soigneux avec les livres de valeur. Ils les manipulaient sans ménagement, les remettaient à l'envers sur les étagères, les faisaient même tomber. Et puis, ils avaient la fâcheuse manie de voler. On aurait dit que celui-ci allait tourner les talons et s'échapper en courant si Drew lâchait à peine un « bou ». Il portait un blouson du City College, bien que la journée fût trop douce pour ça. Drew, qui avait lu sa part de Sherlock Holmes, fit le rapprochement entre la moustache et les lunettes d'étudiant et en déduisit que ce jeune homme voulait se faire passer pour plus vieux qu'il n'était, comme s'il essayait d'entrer dans une boîte de nuit du centre et pas dans une librairie spécialisée dans les livres rares. « Tu veux me faire croire que t'as au moins 21 ans, » pensa Drew. « Mais je veux bien être pendu si t'as 17 ans et un jour. » Et t'es pas là pour regarder non plus, n'est-ce pas? Je crois bien que tu es un jeune homme en mission. » Le garçon trimballait un gros livre et une enveloppe Kraft sous le bras. La première idée de Drew fut que le gamin voulait faire estimer un vieux machin moisi qu'il avait trouvé dans son grenier, mais alors que M. Moustache se rapprochait avec hésitation, Drew aperçut une pastille violette qu'il reconnut tout de suite, collée sur le dos du bouquin. Drew réprima donc son premier réflexe, qui avait été de lancer un « Bonjour, fiston !» Laissons croire au gamin que son déguisement d'étudiant est crédible. Où est le mal? « Bonjour, monsieur. Puis-je faire quelque chose pour vous ?» Pendant un instant, le jeune monsieur Moustache ne dit rien. Le brun foncé de ses poils de barbe naissant jurait avec la pâleur de ses joues. Drew voyait bien qu'il hésitait entre rester ou marmonner un « Non, ça ira !» et foutre le camp. Un seul mot suffirait sûrement à le faire déguerpir, mais Drew souffrait de la maladie chronique de la curiosité assez répandue chez les antiquaires. Il gratifia donc le garçon de son plus charmant sourire, « Je ne ferai pas de mal à une mouche », croisa les mains et attendit. « dit enfin le garçon. « Oui, peut-être. » Drew leva les sourcils. « Vous vendez des livres rares et vous en achetez aussi, non? C'est ce que dit votre site internet. » « C'est exact. Si je peux vendre à profit, bien évidemment. C'est tout le principe des affaires. » Le garçon rassembla son courage. Drew put quasiment le voir faire et marcha jusqu'à la caisse où le halo lumineux d'une lampe d'architecte à l'ancienne éclairait un désordre de paperasse semi-organisé. Drew tendit la main. « Andrew Hallyday !» Le garçon la serra brièvement, puis retira la sienne, comme s'il craignait qu'on la retînt. « James Hawkins !» Enchanté. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Quelque chose qu'un collectionneur pourrait payer au prix fort, si c'était le bon collectionneur. Pas le livre que vous avez sous le bras, j'imagine.
Drew pouvait lire le titre à présent. Dépêche de l'Olympe. Le sous-titre ne figurait pas sur le dos, mais Drew le connaissait bien, car il en possédait un exemplaire depuis de nombreuses années. Lettre manuscrite de 20 grands écrivains américains.
« Oh non, pas celui-là !» James Hawkins lâcha un petit rire nerveux. « Celui-là, c'est juste pour comparer. »«
Très bien, je vous écoute. » Un court instant, James Hawkins sembla incertain sur la marche à suivre. Puis il cala l'enveloppe Kraft plus fermement sous son bras et fit rapidement défiler les pages de papier glacé de Dépêche de l'Olympe, passant un mot assassin de Faulkner à l'intention d'un fournisseur basé à Oxford, Mississippi, au sujet d'une commande égarée. Une lettre exubérante de Eudora Welty à Ernest Hemingway. Un gribouillage à propos de qui savait quoi de Sherwood Anderson. Et une liste de courses que Robert Penn Warren avait ornée de 2 pingouins qui dansaient, dont un fumant une cigarette. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait, posa le bouquin sur le bureau et le tourna pour le montrer à Drew.
« Là, » dit-il, « regardez. »
Le cœur de Drew bondit à la vue du titre. John Rothstein à Flannery O'Connor. La lettre, soigneusement photographiée, avait été rédigée sur une feuille de papier à carreaux déchirée dans un carnet bon marché, effrangée sur tout le bord gauche. La petite écriture soignée de Rothstein, très différente de l'écriture de chat de tellement d'écrivains, était reconnaissable entre toutes. 19 février 1953. Ma chère Flannery O'Connor, j'ai bien reçu ton merveilleux roman, La sagesse dans le sang, que tu m'as si gentiment signé. Je peux dire merveilleux, car je l'ai acheté dès sa sortie, et je l'ai lu aussitôt. Je suis ravi de posséder cet exemplaire signé, tout comme, j'en suis certain, tu dois être ravi de toucher les droits sur une vente supplémentaire. Je me suis délecté de ton panel bigarré de personnages, surtout Hazel Mautz et Enoch Emery, un gardien de zoo que mon propre Jimmy Gold aurait apprécié et avec qui il se serait très certainement lié d'amitié. On t'a qualifié de connaisseuse du grotesque, Miss O'Connor, mais ce que les critiques n'ont pas salué, probablement parce qu'ils en sont eux-mêmes dénués, c'est ton sens de l'humour démentiel qui n'épargne personne. Je sais que tu es souffrante, mais j'espère que tu persévéreras dans ton travail malgré tout. C'est un travail important. En te remerciant à nouveau, John Rothstein. PS. La poule célèbre, j'en ris encore. Pour se calmer, Drew parcourut la lettre plus longtemps que nécessaire, puis il leva les yeux vers le garçon qui se faisait appeler James Hawkins.
Vous comprenez la référence à la poule? Je peux vous expliquer, si vous voulez. C'est un bon exemple de son sens de l'humour démentiel, comme dit Rothstein.
J'ai fait des recherches. Quand Mademoiselle O'Connor avait 6 ou 7 ans, elle avait, ou prétendait avoir, une poule qui marchait à reculons. Des reporters sont venus et l'ont filmée, et la poule s'est retrouvée au cinéma. Flannery O'Connor disait que ça avait été le point culminant de sa vie et qu'après ça, tout n'avait été que déception.
Tout à fait juste. Maintenant que nous avons couvert le sujet de la poule célèbre, que puis-je faire pour vous?
Le garçon inspira profondément et ouvrit le rabat de son enveloppe Kraft. Il en sortit une photocopie et la posa à côté de la lettre de Rothstein dans Dépêche de l'Olympe. Le visage de Drew Hallyday continua d'afficher un intérêt placide alors que son regard passait d'un texte à l'autre. Mais derrière son bureau, ses doigts entrelacés étaient si serrés que ses ongles coupés ras s'enfonçaient dans le dos de ses mains. Il reconnut immédiatement ce qu'il avait sous les yeux. Les fioritures au bout des Y, les B toujours détachées, les H qui s'envolaient et les G qui plongeaient. La question maintenant était de savoir ce que savait James Hawkins. Peut-être pas tout, mais certainement plus qu'un peu. Sinon, pourquoi se cacher derrière une moustache naissante et une paire de binocles qui ressemblaient bizarrement à ces lunettes sans correction qu'on pouvait acheter dans un bazar ou dans un magasin de déguisement? En haut de la page, entouré, était écrit le numéro 44. En dessous, figurait un fragment de poésie. « Le suicide est circulaire, c'est du moins mon avis. Vous pouvez avoir votre propre opinion, mais s'il vous plaît, méditez ceci. Une plaza juste après le lever du soleil, disons au Mexique, ou au Guatemala, si vous voulez. » Un endroit où, au plafond dans les chambres, vous avez encore des ventilateurs en bois. En tout cas, tout est blanco jusqu'au ciel bleu, sauf les tignasses fatiguées des palmiers. Et Rosa, là où, à moitié endormi, le garçon nettoie les pavés devant le café, au coin de la rue, attendant le premier. Ça s'arrêtait là. Drew regarda le môme. Ça continue après, expliqua James Hawkins. Il parle du premier bus de la journée, ceux qui marchent avec des câbles. Il appelle ça un trolleybus. C'est le mot espagnol pour tramway. La femme du narrateur, ou c'est peut-être sa copine, est assise dans un coin de la pièce. Elle est morte. Elle s'est tirée une balle. Il vient de la trouver.
Ça me semble pas tellement immortel comme poésie,
commenta Drew. Dans son état de sidération présent, c'était tout ce qui lui venait à l'esprit. Qualité mise à part, ce poème était la première œuvre inédite de Rothstein à faire surface en un peu plus d'un demi-siècle. Personne ne l'avait vu
sauf l'auteur, ce garçon et Drew lui-même. Sauf si Maurice Bellamy était tombé dessus, ce qui semblait peu probable étant donné le nombre important de carnets qu'il prétendait avoir volés. Le nombre important. Seigneur, le nombre important de carnets.
Non, c'est clair que c'est pas du Wilfred Owen ou du T.S. Eliot, mais c'est pas vraiment la question, si ?
Drew réalisa subitement que James Hawkins le regardait un peu trop attentivement. Et voyez quoi ? Sans doute beaucoup trop. Drew était habitué à bien cacher son jeu. Il le fallait dans un business où sous-évaluer un prix d'achat est aussi important que surévaluer un prix de vente. Mais ça, c'était comme le Titanic remontant soudain à la surface de l'océan Atlantique, déglingué et rouillé. Mais là... Ok, alors admets-le.
Non, sûrement que non.
La photocopie et la lettre à O'Connor étaient toujours l'une à côté de l'autre. Et Drew ne pouvait s'empêcher de faire des allers-retours avec son doigt boudiné d'un point de comparaison à un autre.
« Si c'est une contrefaçon, elle est sacrément ressemblante. »«
C'est pas une contrefaçon, » dit avec une parfaite assurance.
« Où avez-vous trouvé ça ?»
Le garçon se lança alors dans une histoire à la con que Drew écouta à peine. Un truc comme quoi son oncle Phil de Cleveland était décédé et qu'il avait légué sa collection de livres au petit James, et qu'au milieu des livres de poche et des éditions club, il y avait six Moleskine et que, miracle, ces six carnets, remplis de toutes sortes de trucs intéressants, surtout de la poésie avec quelques essais et des fragments de nouvelles, étaient de la main de John Rothstein.
Comment avez-vous su que c'était de lui ?
J'ai reconnu son style, même dans les poèmes, répondit Hawkins.
Il s'était préparé à cette question, c'était clair.
J'étudie la littérature américaine au City College et j'ai lu la plupart de ce qu'il a écrit. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, ce poème parle du Mexique et Rothstein y a passé 6 mois à bourlinguer après la guerre.
Comme une douzaine d'autres écrivains américains de renom, parmi lesquels Ernest Hemingway et le mystérieux B. Traven.
Ouais, mais regardez ça.
Le garçon sortit une seconde photocopie de l'enveloppe. Drew s'ordonna de ne pas se jeter dessus avidement, et se jeta dessus avidement. Il se comportait comme s'il était dans le métier depuis 3 ans, et pas 30. Mais qui pouvait lui en vouloir ? C'était du lourd. C'était énorme ! Le problème, c'était que James Hawkins semblait le savoir. « Ah, mais il sait pas ce que je sais, moi, notamment leur provenance. Sauf si Maury l'utilise comme pigeon. » Et comment ce serait possible avec Maury en train de croupir à la prison d'État de Waynesville ?